Alors, Val, je vous disais, pour trouver le message idéal, c'est vrai que alors le Seigneur m'a guidé et j'ai donné comme titre un peuple mécontent de Dieu et satisfait de lui-même. Il est basé sur le livre des Malachies. Alors, le livre des Malachies, c'est un livre extraordinaire. Et je dirais, c'est un petit prophète, et je pèse mes mots, mais c'est un grand prophète, et c'est pas un petit livre, c'est un grand livre, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a que quatre chapitres. Et vous avez le Malachie, c'est le tout dernier des livres de l'Ancien Testament. Et avant que le Seigneur décide, parce que c'est lui qui décide tout, en fait, il y a eu 400 ans de silence. Du moment où le Seigneur s'arrêtait avec ses prophètes. 400 ans de silence radieux, je dirais. Alors, il y a eu des événements qui se sont produits, la vie a continué, mais le Seigneur n'a pas voulu donner des révélations à travers un autre prophète, voilà. Mais il a fait le dernier message inspiré par Dieu lui-même à ses messagères et. Malachie veut dire justement mon messager. Alors, le livre des Malachies est achevé aux environs de 397 avant Jésus-Christ. Et alors, cette période commence, en fait, et se poursuit jusqu'à l'annonce par les anges de la venue du précurseur du Messie. Jean-Baptiste. Et ça, on peut le lire également dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 11 à 17. Alors, Malachie fut, je répète, le dernier prophète envoyé au reste de Jérusalem. Alors, probablement, Malachie exerce son ministère à la même période de Néhémie. Et pourquoi je m'avance à dire celle-ci? Parce que. Il y a des éléments dans les deux livres de Néhémie et de Malachie. D'abord, le temple était construit, et il était mal utilisé. Deuxièmement, il y avait la corruption dans le sacerdoce. Troisième, il y avait des mariages mixtes avec les païens, et ils avaient négligé les offrandes des dieux. Voilà des thèmes, des sujets dans lesquels les deux prophètes se sont confrontés. Et c'est pour ça que je dis, ils sont dans la même période, ils ont affronté ça. Alors, à qui s'adressent ces livres de Malachie? Ils parlent aux sacrificateurs, aux chefs religieux et au peuple d'Israël. Le grand fardeau de Malachie était un concept juste de Dieu. Hein? Le livre de Malachie a été aussi écrit à l'époque post-exil. Vous vous rappelez dans le livre de Jérémie, au chapitre 25, 11, je ne veux pas le citer. Il y aura peut-être des références que je ne veux pas les lire, mais vous pouvez, si jamais à la fin du culte me demandez, je pourrais vous les donner, pas de problème. Mais Jérémie 25, 11 nous parle de l'exil du peuple d'Israël, du peuple, particulièrement de Jérusalem, qui était détruite. Et ils ont été exilés pendant 70 ans, 70 en France, 70 ans. Alors, 70 ans loin de Jérusalem, tout était détruit, et ils étaient exilés sur le règne de Nabucodonosor en Babylonie. Alors, 70 ans, c'est beaucoup. Ceux qui ont 50 ans, 60 ans savent bien ce que c'est 70 ans. Ça fait environ deux générations. On est d'accord. Pendant ces années, alors, Israël a chuté spirituellement. Extérieurement, Israël allait très bien. Tout paraissait super. Il y a eu des autres prophètes qui leur avaient dit, vous allez rester 70 ans en Babylone. Faites attention. Vous n'allez pas retourner tout de suite. Mais faites procréer, travailler, apporter du. Et tout ça allait très bien pour un moment donné, mais extérieurement, intérieurement, ils allaient très, très, très mal. Les promesses de salut faites par les anciens prophètes, ils ne s'accomplissaient pas ou pas conformément à ce que eux, le peuple, attendaient. Alors, même de sa justice. Alors, il doute, justement, ce peuple, de l'amour de l'Éternel et de la justice de Dieu, et il trouve qu'il ne vaut pas la peine de s'appeler son peuple. Il dit, mais il nous a amenés en captivité, et les choses ne vont pas très bien, pourquoi nous faire le souci de nous appeler son peuple? Apparemment, il y a eu un retour à Dieu, hein, et il y a eu un retour à la terre après 70 ans de captivité en Babylonie, mais tout était très extérieur. Là, quand on met un tableau et on les voit, il est beau ce tableau. C'était comme ça le peuple d'Israël. Alors pour nous aider, pour l'exposé de ce matin de Malachie, je ne vais pas lire les 4 chapitres, sinon on aurait passé jusqu'à 3 heures l'après-midi. Il y en aura, on a un agap tout à l'heure chez les Kuzoué. Mais je vais quand même faire de la sorte en posant 7 questions, 7 questions impertinentes du peuple et des sacrificateurs d'Israël aux reproches faits par l'Éternel. 7 questions impertinentes. Ça paraît long, mais je vous prie d'avoir la patience et ça va être très intéressant, mes amis. Très, très intéressant. Voilà les 7 questions. La première, en quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? Et ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Malachie. Je lis le premier verset, le premier et le 1 et 2. Là, j'ai juste marqué 2, mais lisons le 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Et la première partie du verset 3, et j'ai eu de la haine pour Esaü. Alors, oracle, le tout premier mot qu'on en voit là, souligne la sévérité, et on dit toujours c'est l'importance de ce que le Seigneur va continuer, qui va se suivre, ce qu'il va dire à la suite. La sévérité du verdict prononcé par le prophète. Alors c'est un avertissement de Dieu à travers Malachie pour que le peuple revienne à Dieu. On est d'accord, je le dis tout à l'heure. L'Éternel déclare son amour à son égard et le peuple, qu'est-ce que est en train de lui dire ou de lui demander? De l'éprouver tout simplement. En quoi nous as-tu aimé? Alors rappelons-nous, dans le livre de Deutéronome 7, et je vais le lire avec vous, Deutéronome 7, versets 7 et 8, Deutéronome 7, 7 et 8, et je lis, « Ce n'est point parce que vous surpassez au nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Voilà ce que l'Éternel a choisi. Alors, en fait, il est en train de lui dire qu'à ses cieux, ça paraît, c'est sa misère pressante. Le peuple avait oublié. C'est ce qui était dit par l'Éternel dans ces passages de Deutéronome. Le peuple avait que des yeux pour sa misère pressante. Alors, un mépris absolu du peuple pour Dieu. Ça, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, l'Éternel répond en rappelant les origines du peuple. Revenons à Malachie. Il lui dit, « Esaü n'est-il pas frère de Jacob ?» dit l'Éternel, « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. » D'où venait donc cet amour de l'Éternel pour un homme, puis pour un peuple si misérable? La question se pose. Il venait du besoin du cœur des dieux, de se faire connaître, de montrer aux pécheurs ce qu'il est. Et Israël avait bénéficié de ce qu'il voulait se révéler lui-même. Tout simplement. Ça venait du cœur de Dieu lui-même. C'est-à-dire sa nature et son corps est à des misérables, et je pèse mes mots encore pour dire homme comme le peuple d'Israël et nous-mêmes. Certes, les Israélites ne voient pas tout leur espérance comblée, mais la restauration était amorcée depuis le retour de l'exil. Et c'est le gage que Dieu n'abandonne pas à son peuple. Et c'est un gage, quand on lit ça, c'est un gage pour nous en tant qu'Église. Il n'abandonnera jamais ses enfants, son Église. Il y a Psaume 94, 14, très beau, qui dit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Numéro 2, d'ici une question impertinente de, cette fois-là, pas du peuple, mais des sacrificateurs lui-même. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Et on va lire Malachi 1, 6. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Je lis, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'il y en a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel. Je m'arrête là, pardon. Verset 6. Alors, le prophète aperçoit là des murmures de sacrificateurs et leur dit, vous qui devez donner l'exemple d'honorer mon nom, c'est vous qui murmurez contre moi. C'est le comble. Voyez pas? Il murmurait, dit, mais en quoi nous avons méprisé le nom, ton nom, Seigneur? Et il leur rappelle qu'un fils doit honorer son père et que le serviteur doit honorer son maître. C'est des choses basiques qu'il leur rappelle. Il n'y avait rien de nouveau. Une vérité admise par tout le monde et l'applique ensuite à ses auditeurs. Alors il foulait aux pieds, c'est vraiment misérable ce qu'il faisait, non seulement l'honneur dû à l'Éternel, mais ses préceptes les plus impératifs. Malachi 2, on vient au chapitre 2, pardon, au verset 1 et 2, écoutez ce qu'il dit. « Maintenant à vous cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » Vous ne les avez pas à cœur. Voilà ce qu'eux, ils avaient oublié. Ils avaient justement oublié de donner la gloire au Seigneur. Trop souvent, c'est le serviteur qui est honoré, le prédicateur qui est honoré. Et on oublie de lui donner toute la gloire au Dieu. Et c'est vrai que je me disais, en préparant ces messages, si à la fin du message, quelqu'un vient me dire, mais Robin, oui, ça manque un petit peu... l'oratoire ou la manière de ton message. Mais on a compris le message, c'était très bien. J'ai dit, gloire à Dieu. Si vous comprenez le message, c'est le plus important. Le reste, mes amis, c'est extra. Encore, c'est pourquoi voici ce qui dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, on est 1 Samuel du 30. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Le Seigneur donne des avertissements et donne ses prophéties. Il nous laisse toute sa parole pour nous donner des avertissements clairs et nets. Et on doit l'honorer, on doit l'aimer. Numéro 3. En quoi avons-nous profané ton nom? Et je lis le verset 7 à 8 du chapitre 1 de Malachie. vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un ferme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien et te fera-t-il bon accueil? Là encore, les sacrificateurs demandent des preuves de leur conduite profane. Et il s'agit de la chair des victimes. Tout ça, c'est dans les livres de Lévitique. Avant, tout au début, la loi de l'Éternel. Lévitique 21, il y a plusieurs versets, 6, 8, 17, dans les nombres, égale 28, 2, c'est la nourriture des dieux. Tous ces animaux, tous les sacrifices qu'il y en avait pour honorer Dieu, voilà, c'est ce qu'on appelle la nourriture des dieux. C'est d'après là aussi que Malachie, A12 nous dit « Mais vous, vous le profanez en disant « La table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Alors, toute offrande, tout sacrifice non conforme à cette loi, c'est souillé, c'est pourri, ça ne vaut pas la peine. Et il le faisait. Il le faisait juste parce que ça paraissait bien. Alors Dieu, et écoutez là, c'est très important, Dieu ne les accuse pas de ne pas avoir fait les choses, de ne pas avoir fait des offrandes à Dieu. Ce n'est pas ça la question, ce n'est pas là l'accusation que Dieu leur donne. Mais du mépris avec lequel il est fait à cause du mépris, le nom de Dieu est méprisé et déshonoré. Ils les font, mais mal. Il peut sacrifier, oui. Mais il sacrifie quoi? Le boiteux, le malade, ce qui est pourri. Esaïe 29, 13. Car ces peuples s'approchent de moi de sa bouche et mon cœur de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Malheureusement, c'est vrai, et j'accuse personne, on est tous dans le même bateau. Il y a encore en plein siècle 21, 2021, on est aujourd'hui, 18 juillet. Il y a des gens dans les églises encore qui font pareil, qui donnent juste le nécessaire, ce qu'on a en plus. C'est ça qui est méprisable. Titre, je suis chrétien, je suis le fils de Dieu. On est très beau quand on se voit à l'église. C'est extérieurement que ça se passe. Mais intérieurement, comme il est en cœur envers le Seigneur. C'est une grande perte, non seulement pour eux, dans le cas des Israélites ou du peuple juif, mais pour le Seigneur lui-même. L'honneur, sachez-le mes amis, je crois que vous les avez très bien, ça prend place tout d'abord dans le cœur. L'honneur ne prend pas place après à une autre chose. Nous honorons les autres dans la mesure où nous considérons leur position ou leur contribution importante. On leur donne l'honneur, on leur met le tapis rouge. Mais est-ce que tout ce qu'on donne, ça vient du cœur? Je répète, Dieu désire l'honneur qui sort de nos cœurs. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton corps désire. Le psaume 37, 4. Et c'est vrai, quand on prend plaisir dans le Seigneur, c'est un régal, c'est beau, on se sent bien de lui faire, on pourrait dire, plaisir. On ne se fait pas plaisir nous-mêmes, même que le donneur peut se faire plaisir en donnant, et le recevant, le Seigneur, il aussi, il est honoré. Point 4. En quoi t'avons-nous fatigué? Alors le questionnement du peuple va en crescendo. Il a commencé par « En quoi nous as-tu aimé? En quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi avons-nous profané ton nom? Et maintenant, en quoi t'avons-nous fatigué? » Alors, il renie la sainteté, là, dans ces points. et la justice de Dieu, le peuple affirmait que Dieu ne s'était pas soucié de ceux qui faisaient le mal. Et on va voir de plus près. Vous avez fatigué l'Éternel. Alors, la question pourrait aussi se poser différemment. Comment pouvons-nous fatiguer quelqu'un d'infatigable? C'est ça la question. On dit Dieu est tout-puissant, Dieu est omniprésent, Dieu il est là, il est partout. Mais Dieu se fatigue, il se fatigue de différentes manières, pour des différentes raisons qu'on lui donne de se fatiguer. Notre auto-justification, excusez-moi, notre orgueil, l'indifférence à la parole de Dieu, par nos doutes aussi, parfois on doute envers ses promesses, par notre infidélité. Est-ce qu'on est toujours fidèle à Dieu? 24 heures sur 24, 365 jours par année. Par notre désobéissance, on désobéit Dieu dans plusieurs domaines. Alors c'est vrai, humainement parlant, et je vous donne un exemple personnel, le train-train quotidien de la vie, et tout le monde, je crois qu'à un moment donné, on veut se poser et dire... ça va trop rapidement, j'arrive plus, je suis fatigué, le train-train du travail, se lever très tôt le matin, aller assez tôt et mener les enfants, quand on a les enfants petits, courir à droite, à gauche, arriver au bureau, 9h du matin, vous avez rendez-vous. Midi, aller manger rapide, un petit sandwich. 17h, vous rentrez à la maison, mais la journée n'est pas finie parce que ça va, ça continue. Le quotidien est loin de s'arrêter. Un rendez-vous suit l'autre et vous avez la peine, le temps de respirer. Et ça peut donner des fatigues et parfois extrêmes. Ça m'est arrivé, ça fait quelques années en arrière. Mais c'est une fatigue humaine, je dirais plutôt psychologique. Alors les athlètes aussi se fatiguent souvent. Mais vous, peut-être, vous vous fatiguez moins, je ne sais pas. Mais la fatigue, fatiguer Dieu, l'infatigable, c'est une autre chose. Alors, heureusement, et je dis heureusement parce que ce n'est pas tout le peuple qui était dans ces cas. Le peuple qui était dans ces cas était ceux qui doutaient de Dieu. Alors, ceux qui n'étaient pas dans les cas, on les voit dans Malachie 3.5 et Malachie 4.1, mais les Juifs vraiment pieux sont expressément distingués de ceux-là. Et je vais lire Malachie 3.16 pour comprendre. Il y a ce que le Seigneur, voilà, il est en train de le corriger en lui disant ce qu'il ne fallait pas faire. Et Malachie 3.16, lisez avec moi, le dit, « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre des souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honoraient son nom. » Voyez les privilèges extraordinaires qu'ils avaient d'être dans ces livres, un souvenir, de dire, ben voilà, ici à Eliane, ici à Pierre, ici à Jean, ici à tel. Un livre des souvenirs de ceux qui honoraient Dieu. Et nous avons à voir ces livres, si on honore Dieu, on sera également dans ces livres des souvenirs du Seigneur. Et gloire à lui. Quiconque fait le mal également. Ah, je reviens au chapitre 2, verset 17. C'est en disant que quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Voyez là, il s'agit des Juifs désobéissants. Justement à cause du contraste qu'il fait tout au début du chapitre 1, verset 10 à 11, qui parle de ceux qui désobéissent et ceux qui obéissent pas, et obéissent bien. Les païens obéissaient à Dieu sans la loi, alors que les Juifs, qui étaient censés l'aimer et les suivre, ne se préoccupaient pas du tout. Ils semblent réellement être les privilégiés de l'Éternel, dans leur puissance et dans leur prospérité. Si l'on est autrement, pourquoi Dieu ne les juge-t-il pas? Alors pourquoi il ne les juge-t-il pas? La réponse est parce qu'on a un Dieu miséricordieux. nous aussi on méritait le jugement et pas Christ, par son sang précieux, on nous répondons devant lui, on a eu sa miséricorde, sa grâce, il nous accordait la vie éternelle. De façon hypocrite, il cherchait à le faire réagir en disant « Où est le Dieu de la justice ?» Alors, je passe au numéro 5. En quoi devons-nous revenir ? Verset 3, et je lis à partir du 6 et verset 7. « Car je suis l'Éternel et je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Depuis les temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alors c'est incroyable. Chaque parole de l'Éternel devient l'occasion d'une réplique. Soit du peuple, soit des sacrificateurs, une réplique orgueilleuse, une réplique de « Mais pourquoi tu nous dis ça ? Je ne suis pas d'accord, on est en train de juger. » Alors la question peut également se poser parce que en quoi devons-nous revenir ? On peut dire comment le peuple pouvait-il revenir à Dieu puisqu'il croyait ne jamais l'avoir abandonné ? Il se croyait vraiment d'avoir été tous les jours avec le Seigneur pendant ces 70 ans d'exil en Babylone. En fait, le peuple était inconscient de son péché. Il n'était pas disposé à reconnaître qu'il avait commis des péchés et devait se repentir, car d'après eux, c'était Dieu qui les avait laissés tomber, tout simplement. Eux, ils n'avaient rien fait de mal. C'est Dieu qui avait mal agi. Eux, ils étaient dans la bonne voie. Est-ce que ça nous arrive parfois de dire, mais Seigneur, moi je fais tout bien, hein? Je viens tous les dimanches à l'église. Oui, je mets l'offrande. Oui, j'appelle mes frères et sœurs en Christ, je m'occupe. Oui, Seigneur. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur veut que nous on fasse. Ce qui est écrit dans sa parole. Alors, en réalité, Dieu n'avait pas changé du tout. Dieu ne change jamais, Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et demain, il est éternel. Et le peuple non plus, ils n'avaient pas changé. On est bien d'accord. Mais Dieu était toujours juste et eux toujours aussi injustes. Dieu est toujours bon et nous sommes vraiment des misérables. L'Éternel invite le peuple à revenir à lui. C'est une invitation, mais plein d'amour, plein de tendresse, à revenir à lui. Je ne sais pas si ça vous arrive de parler à quelqu'un de votre famille, à vos enfants, ou à vos petits-enfants, ou à votre épouse. Je dis, mais écoute, le Seigneur t'aime. Il m'a aimé, il a payé mes péchés, il m'a lavé de tout péché, il a payé ma dette à la croix du calvaire. Viens à lui et que tu entends juste la réponse, mais pourquoi faire? Ça va bien ma vie. C'est triste. C'est ce qui fait ces peuples. Oui, ils contestent toujours sans être éloignés et posent la question hypocrite, en quoi devons-nous revenir? Et au verset 6 encore, il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Ce verset est là pour montrer à Israël combien il a chez lui, en ces moments de péché, propre à tirer sur lui le jugement annoncé. Vous n'avez pas été consumés, détruits, rayés de la carte, complètement. L'Éternel termine par une invitation pleine de tendresse à revenir à lui. Car je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. C'est à la fidélité de Dieu, son alliance, qu'Israël n'est pas encore complètement détruit. Alors Jérusalem était détruite à un moment donné, on l'a dit tout à l'heure. rasés et ils étaient exilés en Babylone. Mais les mots « fils de Jacob » montrent aux Israélites que quelques indignes qui soient de l'alliance que Dieu a conclue avec eux, il n'a pas cessé encore de les envisager comme les fils de la promesse. Parce que quand il fait une promesse, il la tient jusqu'au bout. Ce n'est pas comme nous, on ne tient pas nos promesses. Ça vous arrive le 31 décembre, le 1er janvier. Ah oui, cette année, je ferai ça, ça, ça. La liste, elle est longue. Et on n'en tient pas à la fin de l'année. C'est mieux ne pas faire des promesses, mes amis. Moi, personnellement, ça fait des années que mes promesses, je dis, Seigneur, aide-moi à tenir mes promesses envers toi. Parce que c'est très difficile. Point 6. Jusqu'à là, ça va? Merci. Merci au Seigneur. En quoi t'avons-nous trompé? Voyez là la question encore au chapitre 3 et le verset 8 et 9. Un homme trompe-t-il Dieu car vous m'avez trompé? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alors oui, c'est du vol simple et pur. Le Seigneur le dit, vous me trompez. Et vous voyez là, le verbe voler apparaît 4 fois et dans l'ancienne version grecque dit tromper au lieu de voler. Tromper. Alors, c'est ce verbe tromper qui est un homme entre nous, et ceux qui ont trompé leurs femmes. Quand on trompe nos enfants, on leur dit des choses qui ne sont pas vraiment vraies. On trompe notre employeur, on trompe nos amis. Alors, tromper un autre être humain, ça va, parce que peut-être qu'il ne va pas se rendre compte. Mais tromper Dieu, qui voit tout, qui connaît nos cœurs, qui nous connaît parfaitement, il faut oser. Alors la loi sur les dîmes et les offrandes, je ne vais pas les lire parce que ça nous ferait aussi un autre message. Mais Lévitique 27, 30, 32 dit « Tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » Tout appartient à l'Éternel. Et il parle des dîmes. Et il s'agit des dîmes et offrandes réservées à Dieu et à l'entretien des prêtres au temple. Et dans le livre de Néhémie, c'est extraordinaire, quand vous aurez le temps de le lire, Néhémie chapitre 10 au 12, il s'acquittait vraiment avec si peu de conscience les dîmes qu'il fallait apporter au temple, qu'il y a eu un moment donné que les lévites, les sacrificateurs, ont dû quitter leur travail de lévites ou des sacrificateurs pour aller travailler la terre, parce qu'ils n'en avaient pas assez des dîmes. Je lis un commentaire de John MacArthur qui dit une chose très intéressante. Alors, ils ne s'étaient pas acquittés de leurs dîmes et offrandes, pourtant indispensables dans le cadre d'une théocratie pour rémunérer les Lévites, pour célébrer les fêtes religieuses liées à la nature et soutenir les pauvres. Et en volant ainsi Dieu, c'était eux-mêmes qu'ils avaient volé, car ils s'étaient privés des bénédictions divines. Donner aux autres, et je l'ai dit tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir à Dieu. Et ceux qui reçoivent les dons, mais également, ils ont un plaisir à recevoir. Quand vous avez votre anniversaire et vous recevez un petit cadeau, un petit bijou pour les dames, pour nous peut-être un porte-monnaie ou je ne sais pas, ou un livre à lire. Ça fait plaisir, mais ça fait plaisir également à celui qui donne. Parce que quand on choisit un cadeau pour quelqu'un, on le fait avec amour, on le fait avec l'envie de lui faire plaisir également. Ne pas le faire, c'est à la fois voler Dieu, mais aussi c'est priver des bénédictions, je répète. En quoi avons-nous murmuré contre toi? Je répète, au chapitre, je passe au point 7, je finis au point 6. En quoi t'avons-nous trompé? Passons, en quoi avons-nous murmuré contre toi? Chapitre 3, versets 13 à 14. Alors vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? À cause de l'Éternel des armées? Là encore, je cite un commentaire de MacArthur qui dit « Le peuple et les sacrificateurs avaient non seulement remis Dieu en question, violé son alliance, désobéi ses lois, profané ses autels et méprisé son nom, mais ils avaient aussi ouvertement murmuré contre lui. » Alors, il se plaignait de ceux que, contrairement aux promesses, ils ne tiraient aucun avantage de l'obéissance à Dieu. D'après eux, seuls les orgueilleux et les méchants prospéraient. Alors les peuples étaient jaloux. Ils convoitaient les autres, les païens. Ils voyaient qu'eux, ils prospéraient. Et qu'eux, ça n'allait pas très bien. Ils n'aimaient pas Dieu pour ce qu'il était, pour ce qu'il faisait pour eux. Et là, c'est grave. Ils s'en plaignaient ouvertement, ils étaient animés par un amour égoïste et mercantile. Ils attendaient d'abord que le Seigneur fasse quelque chose pour eux, qu'il leur donne la prospérité, une très belle famille, je ne sais pas, encore des belles choses. Vous voyez, c'est comme l'image de ceux qui s'adhèrent au faux évangile de la prospérité. Le Seigneur ne nous a jamais promis d'y avoir des grandes choses ici sur terre, mais d'avoir le grand amour qu'est l'amour de Christ. Ça, oui. Alors, il est très facile de tomber, c'est vrai, dans ces pièges. Surtout nous, quand on est entouré, hein, à Genève ou ailleurs, des gens qui prospèrent et qui ne s'inquiètent pas de Dieu. Pourquoi Dieu, si tout va bien dans ma vie? Et on en voit, il y a des gens prospères, riches, qui ont des très belles maisons, qui partent toujours en voyage, ils prennent l'avion privé, ils vont où ils veulent. Les enfants sont dans des très jolies écoles. Tout va bien pour eux et ils ne s'inquiètent pas. Et nous, parfois, nous les chrétiens, on peut tomber dans ces pièges de dire, mais ah, et ça va bien pour eux. Et nous? Mais Dieu sait tout. Rappelons-nous que contrairement à l'Ancien Testament, les bénédictions terrestres étaient associées à l'obéissance du peuple. Hein, c'était l'alliance entre Israël et l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, ça a changé après la venue de notre Sauveur, du Messie. Dieu ne nous a pas promis la prospérité. Dieu ne nous a pas promis de ne jamais tomber malade, ne jamais avoir des problèmes, des fardeaux, à cause de notre obéissance, mais il nous promet par sa grâce et sa présence quelles que soient nos situations. Je vais citer quelques promesses pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, Dieu prend soin de nous, de pouvoir à nos besoins et non à nos caprices, à nos souhaits de, oui, des belles vacances, de je ne sais pas quoi encore. Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. » 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. » Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Quelle belle promesse. Encore, il nous donne la capacité de supporter les épreuves. Si aujourd'hui, peut-être, tu en as une épreuve difficile. 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen de s'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et une toute dernière, d'être à nos côtés jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour en fait. À nos côtés, Matthieu 28, 20. Quelle belle promesse! Revenons maintenant à notre texte de Malachie 3, 13, 14. L'incrédulité du peuple, son indifférence, son manque de confiance en Dieu l'amène à une dernière affirmation bien plus terrible que toutes les autres. Vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qui avons-nous dit contre toi ? Et vous dites, hein, il le dit là très clairement, c'est en vain qu'on sert Dieu. Pourquoi ça sert de lui être fidèle si tout va mal ? Et quel profit y a-t-il à ceux que nous faisons, l'acquis de la charge qui nous a confiée, et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées ? À quoi ça serve ? Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux, ceux-mêmes qui pratiquent la méchanceté sont établis. Même ils tentent Dieu et sont délivrés. Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. C'est ce qu'ils disaient et ce qu'ils croyaient. Alors, c'est vrai, dans un sens, le peuple avait obéi sous Néhémie à la question des dîmes. Ah, ils les avaient bien fait, et pourtant ils étaient encore pauvres et asservis. Alors, au lieu de faire un retour sur eux-mêmes, ils se révoltent contre Dieu. Et c'est vrai que c'est ainsi que se termine l'histoire de ce livre des Malachie et l'Ancien Testament finit là. L'histoire morale d'Israël, aussi bien que celle du monde, ils voient l'orgueil réussir, les méchants arriver à la richesse et aux honneurs, et non seulement ils portent en vie aux cyniques, mais ils prennent occasion de renier Dieu et de les blasphémer. Et pour vous dire, je pense que la fin, ce n'est pas différente à notre époque. Si je dis l'orgueil réussit aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Les méchants arrivent à prospérer. On les honore. Et non seulement ils portent vie aux iniques, mais également l'occasion de régner et Dieu. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a quelqu'un qui est de ma famille qui est mort? Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas beaucoup changé, mes amis. Et je voudrais conclure juste en mentionnant ce livre des Malachie, pour moi personnellement, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a remis en question beaucoup des choses que j'ai fait personnellement par rapport au Seigneur, par rapport dans ma vie des chrétiens, dans ma vie des enfants de Dieu. Mais Malachie parle à nos cœurs et à nos consciences et nous engage à craindre le Seigneur, à avoir la crainte. On dit que la sagesse commence par craindre l'Éternel. Et à l'attente, en parlant de l'un à l'autre aussi, de pouvoir le faire, de pouvoir y communiquer cet amour de Dieu aux autres, et à garder fidèlement sa parole. On traite Dieu d'égal à égal. Tu me parles de retourner, c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Pourquoi faire? Moi, je viens à l'église, je suis chrétien. Je n'ai eu nul besoin de retourner à Dieu. J'ai toujours été avec lui. Posons-nous bien la question et devant lui, pose-toi la question si c'est bien le cas. Le corps du professant, malgré les apparences extérieures, est resté insensible dans beaucoup des cas aujourd'hui. Aussi bien que sa conscience, le peuple juif l'a bien prouvé. Rappelons-nous, 420 ans après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après ces longs silences, silence radio, je disais tout à l'heure, de ces 400 ans de silence, le Messie arrive, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Christ, il a été crucifié, il attendait. Et le moral du peuple n'avait pas beaucoup changé non plus. Avec les mêmes caractères religieux que ceux qui décrivent en Malachie, ces hommes jettent le Messie à la porte et le crucifient. Que ferait-il aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on traverse aussi, dans notre époque, des moments difficiles. On voit les époques changer. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé durant ces 400 ans. On voit aujourd'hui, et on l'entend dans les nouvelles, on voit des catastrophes horribles. On voit le Covid qui nous poursuit jour après jour. Remettons-nous en question de dire, mais Seigneur, voilà, toutes ces épreuves nous permettent de nous approcher, de revenir à toi, de vraiment être plus proche de toi. Je pense que c'est le moment de le faire. J'ai également à cœur de faire un appel à ceux, peut-être ici dans la salle, ou ceux qui peut-être vont écouter le message, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, remettez votre vie, repentez-vous, revenez à lui, acceptez-le lui comme ton Seigneur et son Sauveur. Lui seul peut nous aider à traverser toutes ces preuves dans la vie. Et si c'est le cas, et si tu as envie éventuellement de venir à la fin du culte, de venir nous parler, venez nous voir et on pourra en discuter. Mais c'est important, le Seigneur nous appelle jour après jour, mais ne fais pas force au Seigneur. Voilà mes amis, je pense que le Seigneur est encore patient, il a une grâce infinie pour nous, et que le Seigneur vraiment bénisse sa parole, bénisse cette église locale, et que vous bénisse à chacun d'entre vous, et je vais encore prier. Seigneur, quelle joie encore de pouvoir écouter